Chapitre 31. Mumbang et Shanbei, ces mégalopoles de plus de 300 millions d'âmes, ont longtemps été considérées comme les cités du futur, celles qui proposeraient les solutions les plus innovantes et les plus efficaces pour la reconquête de la Terre. On comptait sur elles pour la mise au point de micro-organismes qui neutraliseraient les particules radioactives ou chimiques saturant le pays hors-site, ou encore pour effacer les effets désastreux des mutations génétiques. Mais il faut se rendre à l'évidence. Les citadins ont de tout autres priorités. Ils n'ont plus le désir de sortir des limites de leur cité. La peur de l'extérieur, relayée par les médias en mal de sensations fortes, engendre chez eux une forme de psychose, une fascination de l'enfermement, comme ces prisonniers qui finissent par s'identifier au mur de leur prison. Pervin Ducher, journaliste au Matin des Parisiens. Pays hors-site 1. Les tueurs ouvrirent le feu. Les balles soulevèrent de petits panaches de roches pulvérisées. Ganesh craignit que les rafales ne démantèlent leur bouclier minéral. Elles pouvaient sans doute perforer des surfaces plus dures que les rochers friables derrière lesquels ils s'abritaient. Ava, accroupie à ses côtés, lui lançait des regards inquiets. Les soldats ripostèrent sporadiquement, pas tant pour neutraliser les tueurs que pour les inciter à continuer leur progression. Les staccatos des armes s'interrompirent tout à coup. Et le silence retomba sur la colline, ébranlé par des craquements, puis, quelques secondes plus tard, par un fracas métallique lointain. Ganesh et Ava se redressèrent au bout d'un petit moment pour observer les environs baignant dans la lumière diffuse de la pleine lune. Les silhouettes grises des tueurs avaient disparu. Ganesh se pencha par-dessus le rocher. La cavité qu'ils avaient recouverte de branchages béait de nouveau. Les tueurs, avançant en ligne, étaient tous tombés dans le piège.
« Putain, ça a marché !»
s'exclama Leif, debout à côté d'Ava.
« Ils ont foncé tout droit sur nous comme des cons ! Je dois reconnaître que je n'y croyais pas trop !»
Ils descendirent l'un après l'autre du relief rocheux. Les rayons des lampes des soldats braqués sur la fosse ne révélaient rien d'autre que les parois parsemées de feuilles et de branches accrochées aux aspérités.
« Ils n'ont pas poussé un cri lorsqu'ils sont tombés !»
La voix d'Issa n'était qu'un faible murmure, comme si elle craignait de ressusciter les tueurs gisant au fond de la fosse.
« Je me demande si... »
commença Ganesh.
« Si quoi ?»
releva Leif. « Il faudrait que nous examinions le corps d'un tueur pour en avoir le cœur net.
Tu as l'intention de descendre à je ne sais quelle profondeur pour en ramener un ?»
L'idée était inenvisageable, et pourtant Ganesh était convaincu qu'une partie de la solution se trouvait dans cette cavité. Des crépitements retentirent, distants, résonnant en écho décroissant dans le silence nocturne.
« Pistolet mitrailleur !» commenta Leif. « Je crains que l'autre groupe de tueurs n'ait rattrapé Marlowe et les autres.
Ils vont probablement se rendre compte que nous sommes toujours vivants et nous prendre en chasse, » dit Ganesh.
« Comment serait-il prévenu ?
Il dispose sans doute d'un système de détection très performant. » Une moue dubitative déforma le visage déjà émacié de Leif, qui pointa l'index sur la fosse.
« Si c'était le cas, ils ne seraient pas tombés dans un piège aussi minable !»«
Sauf si leur système détecte uniquement les mouvements, la chaleur, et pas la configuration d'un terrain. Les machines les plus sophistiquées sont parfois neutralisées par les moyens les plus primaires. »«
Tu parles de machines, or nous avons affaire à des hommes !»
Ganesh marqua un temps de silence avant de reprendre.
« Justement !»
Issa faisait remarquer, à juste titre, qu'ils n'ont pas poussé le moindre cri lorsqu'ils sont tombés. Leur allure, leur endurance, leur résistance aux balles, leur organisation, me donnent à penser qu'ils ne sont pas humains.
« Quoi alors ?»
croassa Leif.
« Des machines, des robots. »
Le regard de Leif se teinta à la fois de scepticisme et d'ironie.
« J'ai étudié de près l'évolution des technologies dans les différentes cités. » Aucune d'elles, et j'inclus les cités asiatiques comme Mumbang ou Shanbei, n'est capable de concevoir et de produire des robots d'une telle perfection. La robotique n'était d'ailleurs pas la priorité de l'organisation des cités unifiées, qui privilégiait les nanotechs et la génétique.
Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faudrait analyser le corps de l'un des tueurs pour en avoir le cœur net. À nouveau, un soldat tenta de sonder la faille à l'aide du rayon de sa lampe. Mais la lumière ne put en atteindre le fond.
« Ça doit faire plusieurs centaines de mètres de profondeur, » fit-il. « Peut-être même plusieurs kilomètres. On a bien des arachnes, mais ils ne seront sans doute pas assez longs. Des arachnes, releva Issa. Des nanophiles qui reproduisent la matière fabriquée par les araignées. Il n'y a rien de plus solide au monde.
L'essentiel est de mettre la plus grande distance entre les tueurs et nous, intervint Leif. Et donc, de foutre le camp sans perdre de temps.
Ils nous auront à l'usure, objecta Ganesh. Il eut tout à coup le goût du tchaï à la bouche et se demanda si l'occasion se présenterait un jour de savourer une gorgée de sa boisson préférée.
Si ce sont vraiment des machines, ils n'éprouvent pas le besoin de manger, ni de dormir. Nous aurons beau fuir à l'autre bout de la terre, ils finiront par nous rattraper.
Admettons que tu aies raison. Ça nous avancera à quoi de le savoir ? Objecta Leif.
En tant que spécialiste des technologies, tu n'ignores pas que toute machine a besoin d'une alimentation. Nous pourrions chercher la source de leur alimentation et la tarir. Elle est probablement la même que pour les drones.
Si je te comprends bien, une intelligence dont nous ignorons tout se sert de machines perfectionnées pour liquider les survivants qui ont échappé à l'extermination globale perpétrée par l'intermédiaire des biopuces, déclara Issa.
Ganesh acquiesça d'un mouvement de tête.
« Putain, on nage en plein délire !» soupira Leif.
« Admettons que ce ne soit pas un délire, » reprit Issa. « Quelles seraient les sources d'alimentation de ces machines ?»
Leif fronça les sourcils. « Du kérosène ou un carburant équivalent à celui des drones, donc des réserves disséminées quelque part dans le pays hors-site, les mêmes peut-être que pour les hélicoptères de la cité, » répondit-il. « Quant aux robots, ils seraient probablement alimentés par des batteries électriques rechargeables, des piles nucléaires par exemple. » Il leur faudrait une production d'électricité quelque part, une centrale nucléaire à fusion, par exemple.
Nilopa en comptait 3, une par ville.
Couper les sources d'alimentation reviendrait à faire sauter toutes les centrales à fusion de l'OCU, soit une centaine, et provoquer une pollution qui exterminerait non seulement les derniers humains, mais également tout organisme vivant sur ce monde. Ce serait faire un désert de notre belle planète.
À moins que les ombres ne disposent d'un poste de commandement centralisé, avança Ganesh.
Peut-être, mais où ? Nous ne disposons plus d'engins volants. Nous ne pouvons plus nous déplacer qu'à pied, ce qui signifie que nous sommes infiniment lents et vulnérables. »
Un silence pesant ponctua les paroles de Leif.
« Barper était réputé pour son pôle technologique, » reprit-il. « D'après mes souvenirs, il n'était pas situé côté montagne, mais côté mer. Ça coûte rien d'aller y jeter un œil. On a juste à retraverser la ville dans l'autre sens. »
Anton pointa le bras dans la direction d'où avaient surgi les rafales quelques instants plus tôt.
« Que faites-vous des tueurs ?»
Leif haussa les épaules.
« Ganesh a raison. Ils nous traqueront où qu'on aille de toute façon. Peut-être en apprendra-t-on un peu plus au centre technologique de Barper. On n'a rien à perdre de toute façon. »
Un soldat consulta sa carte portable électronique.
« On est au nord de la cité. On n'est pas obligé de la retraverser pour rejoindre la Méditerranée. Il nous suffit de couper tout droit.
Allons-y tout de suite. » proposa Issa. «
Qu'on ait au moins une petite chance de l'atteindre avant les tueurs. Tout le monde est d'attaque ?»
La petite cité de Barper avait beau revendiquer haut et fort son identité catalane, se réclamer d'un passé révolu, elle n'en était pas moins à la pointe de la technologie. Bon nombre des innovations les plus marquantes provenaient de ses laboratoires et de ses centres de réflexion, où se côtoyait un nombre impressionnant de cerveaux parmi les plus brillants de l'OCU. Elle recevait en permanence des délégations en provenance des autres cités, qui appréciaient rapidement ses charmes et décidaient souvent de s'y installer. Elle accueillait ainsi une importante colonie de chercheurs venus de Mumbang et de Shanbei, les deux cités asiatiques considérées comme les chefs de file de la technologie de pointe, principalement dans le domaine de la biotechnologie. Voilà comment Barper était parvenu à occuper une place prépondérante au sein de l'organisation. Bien que sa population ne représente qu'un infime pourcentage de la population globale de l'OCU. L'un des maires de Barper, Juan Soporta, créa le centre technologique de Port-la-Nouvelle, au bord de l'étang de la Berre, à une trentaine de kilomètres des barrières filtrantes de la cité.
« Pourquoi si loin ?» ai-je demandé à l'un des responsables de Port-la-Nouvelle à mon arrivée.
Il m'a répondu que le centre avait un énorme besoin d'eau douce pour la conservation de ses données, et que la production de Barper ne pouvait y suffire.
« Aucun risque, rassurez-vous », a-t-il ajouté aussitôt. « Nous sommes reliés par un tube sous-marin longeant la côte, et le centre est aussi bien, voire mieux isolé et protégé que la cité, non seulement par les filtres, mais aussi par les drones et l'armée déployée en permanence sur le pourtour.
Il s'était rengorgé en affirmant que le complexe de Port-la-Nouvelle était l'un des joyaux de l'OCU et, à ce titre, infiniment précieux. Je dois admettre que j'ai été immédiatement saisi par la beauté et la fonctionnalité du site, rêve incarné de tout chercheur. L'élégance des bâtiments se conjuguait ici à la beauté de la végétation et à la géométrie subtile des plans d'eau. Les salles à manger, par exemple, flottaient sur des étangs jonchés de fleurs de lotus et communiquaient avec les autres bâtiments par d'élégantes passerelles en bois précieux, rappelant les antiques jardins japonais. Aucun horaire n'était imposé. Nous pouvions flâner toute la journée dans les somptueux paysages, une absence totale de pression qui portait ses fruits. Les esprits s'épanouissent mieux dans la liberté, les barrières dressées par la pensée s'écroulent, les idées fusent, tantôt folles, tantôt réalistes, toujours créatives, et s'enchaînent pour former les briques de construction mentale nouvelle. Venu passer 2 semaines à Barpère, j'y suis resté 20 années, abandonnant mon épouse et mes 2 enfants à Londres-la-Grise, entretenant une relation intime avec une jeune catalane pure souche, plus ardente que des braises, Maldina. Lorsqu'elle est décédée victime d'une violente réaction de rejet à un implant génétique, je me suis résigné à retourner dans la grisaille de Londres, où j'ai rencontré l'indifférence et le mépris de mes enfants devenus adultes. Depuis, je me suis résigné à mener l'existence morne des exilés. Les reliefs s'estompaient au point de former une vaste plaine, habillée d'herbes hautes et frémissantes. La lune trônait toujours dans le ciel fourmillant d'étoiles, baignant de lumière pâle les rares rochers disséminés sur le sol spongieux. Ils avaient marché 2 bonnes heures avant de franchir les dernières collines.
« Je suis crevé !» souffla Leif. « J'ai besoin d'une pause, et je crève de faim !»
Ava, dont les pieds la torturaient dans ses chaussures d'emprunt, sauta sur l'occasion.
« On s'arrête un peu ?» demanda-t-elle à Ganesh.
Tous les membres du petit groupe se mirent d'accord pour se reposer, d'autant qu'ils n'avaient pas perçu un seul bruit suspect ni une seule forme inquiétante derrière eux.
« J'ai faim et soif aussi, » murmura Ava.
Ganesh s'assit à ses côtés sur une grosse pierre. « On ne trouvera rien à manger ni à boire dans le coin. Il n'y a même pas une petite brasserie avec café et croissant ?» Il sourit en hochant la tête. La vitesse à laquelle une civilisation s'effondre. Dans le pays hors site, nous sommes aussi démunis que des enfants. Nous avons manqué d'à-propos à Barpère. Nous aurions dû chercher de la nourriture dans les appartements. Les gens entassent toujours des réserves. Nous sommes redevenus des primitifs. Nous devons nous débarrasser de nos réflexes de citadins, réapprendre à penser.
Tu regrettes la cité ?
Pas telle qu'elle était devenue, une cage déshumanisante et putride. Elle était condamnée à disparaître, comme tous les systèmes fermés sur eux-mêmes. Puisque nous avons refusé le moindre contact avec le pays hors site, c'est le pays hors site qui est venu à nous.
Pourquoi tu ne t'es pas révolté ?
Ganesh contempla quelques instants les étoiles. Avait-il un jour admiré un ciel aussi beau ? Avait-il prêté attention à la splendeur de son monde ?
Je pensais que devenir fouineur serait la meilleure façon de découvrir l'envers du décor, d'explorer les entrailles de la cité.
C'était une illusion. Les ombres se sont jouées de nous.
Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de toute façon ?
Être vigilant puisque les responsables ne l'étaient plus. Alerter l'opinion peut-être. Contraindre les maires à prendre conscience de ce qui se tramait autour d'eux.
Ganesh se rendit compte que tous les membres du groupe l'écoutaient. Alaric Brognier était conscient que les intrigues du maire de New York masquaient une conspiration plus complexe, intervint Issa. Avec sa fraternité secrète, il a tenté de déjouer ses manœuvres, de sauvegarder les derniers vestiges de la démocratie. Mais les structures des cités avaient fini par pourrir. Marlowe n'était qu'une taupe parmi beaucoup d'autres, l'un de ces hommes que quelques promesses suffisent à acheter.
« La fraternité de Bornier n'était pas si secrète que ça, puisque tu en parles », lança Leif.
« J'étais sur le point d'y être admise, mais elle s'est dissoute après le coup d'état de Jeffrey Dobbs.
C'est complètement bidon, ce genre de confrérie. »
Leif releva la tête, remonta une mèche de ses cheveux et fixa Issa d'un air provocateur.
« De simples parlottes entre gens de bonne compagnie.
Des hommes et des femmes désireux de préserver le fragile équilibre des cités, » corrigea Issa. « Sans eux, nous serions rapidement revenus au temps de la barbarie. »
« La barbarie a toujours été là, » rétorqua Leif. « Elle a seulement changé de visage. » Elle était de moins en moins décelable et elle a fini par nous balayer.
Vous n'avez plus besoin de moi. Laissez-moi partir. » Vu de son bureau au 30e étage de la tour Godot, la cité n'était plus qu'un immense trou noir. Plus une seule lumière ne brillait. Plus un véhicule ne roulait. Plus un piéton ne circulait. Les rats et les corbeaux eux-mêmes avaient déserté les lieux. Un silence glacial recouvrait les bâtiments comme un gigantesque linceul. Et c'était la même chose à New York, à Londres, dans la trentaine de cités unifiées dispersées sur les 5 continents. Les nouveaux maîtres lui avaient transmis des images de désolation sur son mur d'écran. Ils avaient mené leur offensive avec une précision et une efficacité sidérantes. Caton était sans doute l'un des seuls humains, sinon le seul, à contempler le désastre. Redoutable privilège pour celui qui avait concouru à la chute de l'humanité. Il connaissait le côté froid et méthodique des ombres. Avait-elle ajouté la cruauté à leur arsenal? Il restait bien quelques fuyards, quelques hors-sites éparpillés sur la surface de la Terre, mais cela n'avait qu'une espérance de vie limitée. Si la faim, la soif, les animaux féroces, les intempéries n'avaient pas raison d'eux, les unités de nettoyage s'en chargeraient. Vous êtes donc pressé de mourir? Je n'ai plus aucun intérêt à demeurer sur cette terre. Je suis déjà un anachronisme vivant, un vestige du passé. Encore une fois, vous n'avez plus besoin de moi. Et j'aspire au repos éternel. Vous ne croyez donc pas à une existence après la mort, comme beaucoup d'hommes? Un rire enroué secoua Caton. Je ne crois déjà plus à l'existence avant la mort. Pourquoi ne mettez-vous pas vous-même fin à vos jours? Je n'en ai pas le courage. Vous avez pourtant appartenu au mouvement eschatologique de la fin des temps, un mouvement issu d'une ancienne religion. Disons que la fin des temps servait parfaitement mes intérêts. Nos intérêts, devrais-je dire. Puis-je vous poser une question? Faites. Qu'allez-vous faire de ce monde? Le correspondant de Caton demeura quelques instants silencieux. À quoi cela vous servirait-il de le savoir? À rien, en effet. Où en êtes-vous avec le fouineur Ganesh Parvati? Nous n'avons plus aucune raison de le garder en vie. Vous ne l'avez donc pas encore éliminé? La symbiose avec sa biopuce lui a permis pour l'instant de s'en sortir. Voilà une évolution que vous n'aviez pas prévue. Vous ne maîtrisez donc pas tout. La part humaine est incertaine, incontrôlable. Donc, inacceptable? Nouveau temps de silence. Caton crut entrevoir un mouvement dans le lointain, mais il s'aperçut rapidement qu'il s'agissait d'une illusion d'optique. L'œil a tendance à recréer ce qu'il avait l'habitude de voir et qu'il ne voit plus. Vivre l'avait diverti, tant qu'il s'agissait de précipiter ses semblables dans l'abîme. Vivre ne l'intéressait plus maintenant qu'il avait touché au but. Disons, incompatible avec notre mode de fonctionnement. Tuez-moi maintenant. Il vous suffit d'en commander l'impulsion. Nous avons décidé de vous garder en vie pour le moment. Combien de temps? Aussi longtemps que nécessaire. Mais la communication s'interrompit. Caton se leva et se rendit près de la baie vitrée. Le disque parfaitement plein de la lune s'affaissait derrière les tours de Paris. Les ombres lui accordaient le même intérêt que des ethnologues à un animal unique et étrange. Sous l'amertume de ses pensées, perçait une pressante envie de délivrance. Il lui fallait maintenant se libérer de ses chaînes, prendre l'initiative. Ce serait son pied de nez final au nouveau maître, une façon de leur rappeler qu'il ne pourrait jamais vraiment comprendre ni posséder l'esprit humain. Probabilité de suicide, 13%. Les ombres lui accordaient peu de chance, ne lui concédaient aucun courage. Il sourit. Leur provocation était peut-être une façon de le pousser à commettre un acte qui lui avait toujours répugné. Une hypothèse qu'il chassa aussitôt de son esprit. Elles étaient totalement dépourvues de second degré, de subtilité, d'humour. Il se rendit sur le palier du 30e étage, puis gravit l'escalier qui donnait accès au toit de l'immeuble. Le vent frais lui gifla le visage et gonfla ses vêtements. Il marcha jusqu'au bord du toit et fixa le vide. Il ne voyait pas le sol en contrebas. Il n'éprouva aucune sensation de vertige, contrairement à son habitude. Des larmes lui vinrent aux yeux. Il en fut étonné. La dernière fois qu'il avait pleuré, il n'avait pas encore 5 ans. Ses souvenirs d'enfance lui revenaient en rafale. Son humanité l'habitait avec une puissance suffocante.
Probabilité, 11,07%.
Il lui fallait prendre de vitesse ses pensées, ses émotions, les suggestions des ombres. Il suspendit sa respiration, fit un pas en avant, se jeta en arrière, un réflexe insuffisant. Le vide le happa. Il tomba comme une pierre le long de la façade. Alors seulement vinrent les remords et les regrets.
Tant qu'il y a de l'eau, du poisson, une femme pour l'accueillir au retour de la pêche et de l'alcool de baie, un Valre n'a aucune raison de se plaindre. Proverbe Valre.
Pays hors site 2. Ils contournèrent un énorme cratère aux parois abruptes, dont le pourtour s'habillait d'une végétation épineuse et rabougrie. Rodag et Kolb se relayaient pour porter de lune. L'aube pointait. Des flèches lumineuses blanches et roses transperçaient l'encre diluée du ciel et effaçaient les dernières étoiles. Les enfants se plaignant de la fatigue, les mères leur avaient expliqué que des créatures très méchantes les pourchassaient et qu'il fallait se mettre en lieu sûr le plus rapidement possible.
« Ce genre de trou, on dirait qu'il a été creusé par une bombe », fit Kolb en désignant le cratère. « Et à toutes les chances !» confirma Rodag. « Des trous comme ça, on en trouve plein dans les coins où il y a eu des grosses batailles !»
De temps à autre, ils apercevaient entre les pins les scintillements de la mer, qui longeaient en direction de l'ouest.
« Les heures ne te disent rien, Yosp ?» demanda Naya.
« Elle ne me parle plus !»
répondit le petit homme sans se retourner.
« Ça tombe vraiment mal !» grommela Kolb. « On sait toujours pas si les cavaliers nous collent au train !»«
Ils ne sont pas pressés !» intervint Delune. « Ce sont des machines. Il faut les dérégler. »«
Plus facile à dire qu'à faire !»
Le trappeur souffla bruyamment.
« T'es plus lourd que t'en as l'air, mon gars !»«
Tu veux que je te relaie ?»
proposa Rodag.
« Je peux encore tenir, de toute façon, hein ?» « Va falloir qu'on s'arrête un petit moment !»
Laissant le cratère derrière eux, ils se dirigèrent vers les ruines d'un village posé au sommet d'une colline et pris d'assaut par les ronces et le lierre.
« Là, on sera tranquille !»
souffla le trappeur.
« Et on verra les cavaliers venir de loin !»
Ils gravirent une pente escarpée et s'installèrent dans une maison pratiquement intacte, et pourvue d'une terrasse, d'où ils avaient une vue splendide sur la Méditerranée rosie par le soleil levant. Après avoir couché les enfants dans une pièce vide sur un matelas de veste étalée, ils établirent des tours de garde pour surveiller le sentier qu'ils avaient parcouru le long du cratère. Delune, installée sur la terrasse, observa avec attention les plantes qui poussaient alentour. Il lui sembla reconnaître un simple, légèrement modifié, dont se servait Dandera pour désinfecter les plaies. Il confectionnait un cataplasme formé de boue, de salive, de tiges et de feuilles broyées qu'il appliquait sur la blessure jusqu'à ce qu'il forme une croûte dure. Il demanda à Lorena d'aller lui en cueillir et de lui apporter également un peu de terre et d'eau. Elle revint quelques instants plus tard avec les plantes, une poignée de terre rougeâtre et de l'eau qu'elle avait puisée dans un bassin dressé sur une place en partie escamotée par la végétation. Delune huma les simples. Les broya avec une pierre aux arêtes tranchantes, mélangea la terre et l'eau et incorpora progressivement les plantes hachées en y ajoutant quelques gouttes de salive. Il pria ensuite Naya d'appliquer la préparation sur sa blessure. Elle lui retira sa veste, étala le cataplasme et le fixa à l'aide de la fine bande de tissu qu'Elvar préleva sur sa robe. Delune les remercia d'un sourire. Puis, il s'allongea en chien de fusil à même le sol et s'endormit presque aussitôt. Lorsqu'il se réveilla, 2 lapins grillaient sur des braises. Recroquevillés sur le muret, Yana surveillait le sentier tandis que les autres, excepté Kolb, dormaient à poings fermés, éparpillés sur la terrasse. Delune ne ressentait pratiquement plus aucune douleur,
Combien de temps j'ai dormi ?
Demanda-t-il au trappeur.
Ce dernier fixa le ciel. D'après la position du soleil, je dirais une bonne partie de la journée. On va pas tarder à entrer dans le crépuscule.
Et les cavaliers ?
On n'en a pas vu la queue d'un. Soit ils ont abandonné la poursuite, soit ils se sont arrêtés en attendant d'être ravitaillés par les rondelles volantes.
T'aurais pas faim, mon gars ?
Je meurs de faim, tu veux dire ?
Delune se releva et esquissa quelques pas encore mal assurés.
Hey, doucement ! Grogna Kolb. Tu vas rouvrir ta blessure.
Delune s'assit près du trappeur. Elle est en bonne voie de cicatrisation. Je peux marcher maintenant.
Ouais. Tant que ces foutus cavaliers se pointent pas, on restera dans le coin jusqu'à ce que tu sois complètement remis. T'as beau être guérisseur, tu dois te ménager.
Delune contempla Naya endormie quelques mètres plus loin. Dans l'abandon du sommeil, son visage retrouvait une beauté et une douceur trop souvent estompées par la colère ou l'inquiétude.
« Elle s'est fait du souci pour toi », affirma le trappeur surprenant le regard de Delune. « Elle avait peur que tu te réveilles plus. Elle t'aime vraiment, cette petite. »«
Je l'aime aussi. » Kolb se servit du couteau prêté par Rodag pour découper un morceau de lapin et le lui tendre, piqué sur la pointe de la lame.
« Le lapin, en voilà une bonne bête !» s'exclama le trappeur. « Il prolifère, il est bon à manger, facile à capturer. Une vraie bénédiction !»
Delune dévora de bel appétit le morceau de viande. Le soleil arrosait la terrasse d'une lumière encore pâle. La Méditerranée se parait d'argent. Les pins maritimes déployaient leurs parasols sombres au-dessus de la terre ocre et bosselée. La brise apportait d'enivrantes senteurs de sel et de résine. La beauté de ce paysage matinal l'emplit de sérénité. Un parfum d'éternité s'en dégageait. C'était l'un de ces moments magiques et suspendus que ne pourraient jamais leur prendre les êtres qui avaient résolu d'exterminer les hommes. Kolb désigna une carcasse déjà couverte de mouches au pied du muret.
« Les enfants ont mangé, puis ils sont partis, ce... »«
Du mouvement, là-bas !»
s'exclama Yana. Le trappeur sauta sur ses jambes et la rejoignit à son poste de surveillance, suivi quelques secondes plus tard par Delune, qui avait pris des précautions pour se relever. L'adolescente pointa l'index sur les silhouettes qui avançaient en file sur le bord du grand cratère.
« Pas des cavaliers, en tout cas !»
marmonna Kolb.
« Des hors-sites !» confirma Delune.
Une quarantaine d'hommes, de femmes et d'enfants, dont les tenues disparates indiquaient qu'ils n'appartenaient pas au même clan. Il marchait d'une allure vive et jetait d'incessants coups d'œil en arrière.
« M'est avis qu'il fut un danger !» reprit le trappeur. « Les cavaliers ?»
La réponse se présenta d'elle-même lorsqu'une douzaine d'ombres grises surgirent sur le sentier et ouvrirent le feu sur les derniers éléments de la file. Les corps fauchés s'effondrèrent sur le sol ou chutèrent dans le cratère. Les autres s'égayèrent entre les buissons. Mais le tir des cavaliers les décima avec une précision implacable. Quelques-uns parvinrent à s'enfuir dans la végétation un peu plus fournie. Les tueurs, accélérant brusquement l'allure, se lancèrent à leur poursuite, les rattrapèrent en quelques secondes et les achevèrent, à bout portant.
« Bon Dieu !» grommela Kolb. « Ces foutus assassins sont plus rapides que des lynx !»«
Ça leur coûte certainement beaucoup d'énergie !» murmura Delune. « Je suppose qu'ils n'utilisent leur vitesse qu'en cas de nécessité. »
Comme pour illustrer ses propos, les cavaliers se rassemblèrent et s'immobilisèrent au bord du cratère, après avoir massacré tous les éléments de la petite colonne de fuyards.
« C'est horrible !»
s'écria Yana.
« Pas plus que le sort que nous auraient réservé les acheteurs au marché de la plage, »
objecta Kolb.
« Ceux-là, au moins, tuent sans faire durer le plaisir. »
« Ils attendent le ravitaillement des appareils volants, » déclara Delune. C'est le moment de partir.
Ils sont pas mieux lotis que nous sur ce plan-là.
Le trappeur revint près du feu, retira les lapins des braises et commença à les découper.
Eux aussi ont besoin de faire des pauses.
C'est une faille que nous devons exploiter, approuva Delune.
Ils réveillèrent les autres et leur expliquèrent brièvement ce qui s'était passé. La joie et l'inquiétude se mêlèrent dans les yeux de Naya lorsqu'elle découvrit Delune debout.
Tu es sûr que ça va aller ?
« Je ne sens pratiquement plus rien. Je ne vous retarderai plus. »«
Tu veux pas que j'examine ta blessure d'abord ?»«
Plus tard.
Il faut profiter du fait que les cavaliers sont réduits à l'immobilité. »« Je suis contente de te voir debout. J'ai eu tellement peur. »
Elle se jeta dans ses bras et l'enlaça un long moment, la tête sur son épaule. Rodag, Elvar et Lorena allèrent tour à tour jeter un coup d'œil au tueur et au corps figé sur le bord du cratère.
Yosp marmonna d'incompréhensibles sons en secouant la tête.
Kolb procéda à la distribution des morceaux de viande.
« Vous les mangerez en marchant !»
Après avoir réveillé les enfants, ils s'éloignèrent des ruines, toujours en direction de l'ouest. De Lune ne ressentait qu'une légère pointe en bas du dos qui ne le gênait pas. Un kilomètre plus loin, ils longèrent des bâtiments éventrés par les arbres. Ils dominaient une étendue d'eau qui n'était pas la mer, mais une sorte de lac ou d'étang fermé à l'horizon par une bande de terre hérissée de pierres. Des embarcations alignées contre un ponton s'entrechoquaient doucement au gré d'une légère houle.
« Il y a du monde dans le coin !» lança Kolb.
À peine avait-il prononcé ces mots que des hommes surgirent des bâtiments en brandissant des lances aux pointes recourbées.
« Fichons le camp !»
cria Rodag.
« Inutile de fuir !» dit Delune.
« Ils sont beaucoup plus frais que nous. Attendons-les sans manifester de signes d'hostilité. »«
Ils vont nous massacrer, ouais !»
vitupéra le trappeur. Les habitants des immeubles effondrés portaient des tuniques longues et serrées à la taille, mille fois rapiécées avec du fil grossier. Leurs pieds étaient nus, leurs cheveux et leurs barbes emmêlés, incrustés de brindilles et de restes de nourriture. Ils s'immobilisèrent à quelques mètres de Delune et de ses compagnons, et se contentèrent de leur barrer le passage en maintenant leurs harpons levés et en poussant des cris sourds. Delune s'avança d'un pas. Naya se tint derrière lui, nerveuse, l'index replié dans le pontet de son arme.
« Nous ne faisons que passer !» dit le guérisseur d'une voix ferme mais calme. « Nous ne vous voulons aucun mal !»
Il s'était adressé à ceux qui semblaient être les chefs de la troupe, du moins qui se tenaient légèrement devant les autres. Leurs yeux, plus craintifs que menaçants, errèrent quelques instants sur les membres de la petite troupe, s'attardant sur les femmes et les enfants.
« Nous sommes le peuple des Valres !» finit par déclarer l'un d'eux. « Nous pensions que vous étiez l'un de ces clans errants qui viennent parfois nous voler nos réserves de poissons et de sel. »«
Nous sommes de simples fuyards, » expliqua Delune. « Des machines tueuses nous poursuivent. Elles tuent tous les êtres humains. Si vous restez là, elles vous extermineront également. »
Son interlocuteur consulta ses voisins du regard.
« Nous n'abandonnerons pas nos femmes, nos enfants, nos vieillards. Si les machines dont tu parles nous attaquent, nous nous défendrons. Vos harpons ne pourront pas grand-chose contre elles. Nous avons d'autres armes. »
Les yeux de l'homme revinrent se poser sur les enfants.
Ils ont l'air fatigués. Venez partager notre repas.
D'un geste, Delune demanda aux autres ce qu'ils pensaient de l'invitation. Kolb fut le premier à répondre.
Moi, je dis qu'il faut l'accepter. On a besoin de manger si on veut pas s'écrouler dans 2 ou 3 kilomètres.
Mes enfants ont faim et soif, intervint Elvar.
Les miens aussi,
renchérit Lorena.
Moi aussi,
s'exclama Yana.
Moi aussi,
ajouta Yosp.
Si ça se trouve, les cavaliers n'ont pas encore été ravitaillés,
insista Kolb.
Les heures te disent rien, Yosp?
Elles ne me parlent pas.
Naya se rapprocha de Delune.
Il faut prendre le risque. Kolb a raison. On ne tiendra pas longtemps si on ne s'alimente pas.
Le guérisseur se retourna vers les Valres.
Nous acceptons votre offre.
Souvent dans le pays hors site, les clans ou les populations choisissaient un nom qui avait un lien avec l'endroit qu'ils habitaient. Cela pouvait être le nom d'une ville, d'une région, d'une particularité géographique, d'un animal typique du coin ou d'une tradition locale. Il arrivait parfois que les noms n'aient absolument rien à voir avec le lieu de résidence des clans. Il s'agissait alors de groupes qui avaient traversé une grande partie du pays hors site, chassés par la famine ou par la guerre, et qui avaient gardé leur nom d'origine en s'installant sur leur nouveau territoire. Ainsi trouvait-on des Vogues sur les bords de la Méditerranée, en référence aux massifs montagneux de l'est de l'ancien pays de France, ou encore des Dauphins dans l'agglomération du Noyau qui, situé très loin de la mer, ne comptait évidemment pas de mammifères marins dans sa faune. Les origines de noms comme le Pégase, le Léviathan ou le Herculus sont plus difficiles à déterminer. Probablement issus de légendes oubliées, ils sont les vestiges de la civilisation qui régna sur la Terre avant la Grande Guerre. Quoi qu'il en fût,
son nom revêtait la plus grande importance pour un clan. Il induisait le respect, la peur, la dérision ou la confrontation. L'intérieur des immeubles était aussi délabré que l'extérieur. Les Valres avaient consolidé avec des troncs ou des branches maîtresses les pièces à peu près intactes. L'un des immeubles servait de salle commune. S'y déroulaient les cérémonies rythmant l'existence du peuple Valre. Mariage, décès, naissance, rituel du passage à l'âge adulte, assemblée. Une cinquantaine de convives, pratiquement tous masculins, avaient pris place autour des immenses tables dressées en l'honneur des visiteurs. De jeunes femmes apportaient des plats contenant des poissons argentés, posés sur des lits d'algues et des petits légumes verts, appelés les haricots de mer. Les Valres fabriquaient également une boisson fermentée à base de baies rouges et acides, qui poussait en abondance sur les buissons des alentours. De Lune, Naya et Yosp mangeaient en compagnie d'Angré, l'homme qui leur avait servi d'interlocuteur quelques instants plus tôt. Il leur expliqua qu'ils avaient essuyé une dizaine d'attaques avant de s'organiser. Ils utilisaient désormais l'eau, dont ils disposaient en abondance, pour piéger les assaillants, concevant un ingénieux système de canaux souterrains dont le contenu saumâtre se déversait à la moindre alerte dans les douves dissimulées entourant les bâtiments.
« L'eau a ceci de bien qu'elle les fait patauger et qu'elle enraye leurs armes à feu, » poursuivit Angré. « On n'a plus qu'à les achever à coups de harpon. »
Les Valres vivaient de pêche et plus généralement des produits du lac d'eau salée, nettement plus calme que la mer en période de grand vent.
« Vous n'avez jamais bougé d'ici ?» demanda Naya.
« Nos ancêtres y sont toujours restés. L'endroit est agréable à vivre. Il faut seulement veiller à ce que les bâtiments ne s'effondrent pas. »
« Il n'y avait pas de cité dans le coin ?»
Angré parut surpris par la question, puis hocha vigoureusement la tête.
« Port la Nouvelle, le site technologique de Barpère. »«
Technologique ?» releva de Lune.
« À ce que racontent les anciens, ils fabriquaient là-bas tout un tas d'inventions aujourd'hui oubliées. »
Le regard intrigué de Naya croisa celui de Lune.
« Il est loin d'ici, ce site ?»«
Environ 20 kilomètres vers le sud. Mais comptez pas trop le visiter. Il tire sur tous ceux qui s'en approchent. Et puis, qu'est-ce que vous iriez foutre là-bas »«
Peut-être vérifier que cet endroit n'a pas un rapport avec les machines qui nous poursuivent. »
Angré se pencha par-dessus la table.
« Votre histoire de machine, elle est sérieuse ?»«
Tout ce qu'il y a de plus sérieux, » répondit de Lune.
Le Valre se recula. L'inquiétude tendait maintenant son visage buriné.
« Qu'est-ce qu'on devrait faire, à votre avis ?»«
Prendre vos bateaux, voguer aussi loin que possible, espérer qu'une solution se dessinera pour neutraliser ces tueurs. »